Bonsoir à toutes et à tous. C'est bien d'être là à Saint-Denis après quelques jours de vacances. C'est ici que je suis chez moi. Et avant de partir, j'avais un peu de crainte quand j'étais dans le pays où je quittais il y a trentaine d'années. Quand on entend la nouvelle des persécutions de l'Église, des chrétiens et tout cela, c'était un peu... Il y avait un stress. Mais une fois que j'étais là-bas, les choses sont très, très encourageantes. Parce que, comme vous le savez, quelques frères de l'Église, quand ils sont partis pour l'évangélisation, ils étaient attaqués par des hindous fondamentalistes, les voitures endommagées et tout cela. Et dans l'Église, chaque semaine, il y a des jeunes frères qui partent pour faire l'évangélisation dans le plein air. Et quand je parlais avec eux, ils disaient, non, il faut continuer. Ce sera comme ça, mais nous devrions continuer. Donc j'étais très très encouragé. Il y a une multiplication de l'Église partout dans où j'étais. Hein. Je n'ai pas été dans tout le pays. En tout cas, dans le sud de l'Inde, il y a beaucoup beaucoup d'Églises, beaucoup de chrétiens. C'est très encourageant. Mais parfois on peut être effrayé en écoutant les nouvelles par la radio, par la télévision, qui est dans la main de l'ennemi. C'est pour nous coincer, faire coincer, nous effrayer. Il fait tout. Prions pour ces pays qui sont dans l'exécution. Pour nos études ce soir, nous allons prendre le livre d'Exode, chapitre 3. Je ne sais pas si vous avez lu ce passage séparément. Le passage que nous intéresse dans le livre d'Exode, chapitre 3, c'est le verset, à partir de verset 6. Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un beau, bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qui habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant, vois, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple vous servirait Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Ça, c'est la parole de Dieu. Nous allons continuer notre étude ce soir dans le livre d'Exode, chapitre 3. Nous avons vu comment et où Dieu rencontra son serviteur Moïse pour l'envoyer pour faire sortir son peuple d'Égypte. Je remarquais que notre frère Steve avait fait une étude sur le même chapitre, le même passage, quand il était ici. Nous allons encore creuser dans la même mine pour voir si nous pouvons trouver quelque chose. La parole de Dieu est tellement riche que nous n'allons pas être déçus. Le verset 6, Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Lorsque nous étions en Inde, dans l'église où j'ai grandi, un jour après la culte, un jeune homme me demanda, « Ah, vous êtes le père de Jérémie ?» Et tout de suite, j'ai répondu, « Non, Jérémie est mon fils. » Jérémie, il était là il y a 2 ans, pendant 3 mois, donc ils connaissent Jérémie plus que moi. Les gens m'ont oublié. Nous avons tous une identité, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'être relatés ou connectés avec quelqu'un ou quelque chose. Nous voyons ici que Dieu adresse à Moïse comme le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pouvons-nous imaginer jusqu'où vous Dieu a descendu pour sauver l'homme pécheur. Et parfois, on sait que Dieu l'a descendu sur cette terre pour sauver l'homme pécheur. Mais parfois, il faut peut-être contempler jusqu'où il a descendu pour être identifié avec l'homme pécheur, pour être connu par des hommes pécheurs. Vous n'allez pas vous introduire vous-même à un mouton et dire que voilà, je suis Jean-Pierre. Non, on ne peut pas connecter, on ne peut pas arrêter avec un mouton, on ne peut pas parler avec un mouton. Où est le Créateur et la créature? L'homme a chuté encore plus bas après le péché. Le psalmiste dit, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme ?» pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu te prennes garde à lui. Mais pourtant, Dieu dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Pourquoi? Dieu trois fois saint, et le Dieu très haut, qui règne au-dessus de toutes choses, devrait faire cela. Dieu n'avait pas besoin des hommes. Qu'est-ce qui l'a motivé de s'introduire, de faire cela? Regardons ensemble dans Hébreux 11, 8 à 16. Hébreux 11, le verset 8 à 16. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu une vue celle d'où il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner. Verset 16, mais maintenant, ils ont désir une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Quand Dieu il s'introduit lui-même, comme Dieu d'Abraham Isaac et Jacob, ils avaient déjà un projet pour ce peuple, pour les amener à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Mais nous-mêmes, dans notre société, parfois, on n'aime pas être identifié avec certaines personnes, avec des personnes de mauvaise vie. On n'a pas être identifié. Imaginez ce que Dieu a fait pour nous. Il n'avait pas honte d'être appelé le Dieu de ce peuple. Le peuple qui nous ont oublié Dieu, ils vivaient en tant qu'esclaves, sans aucun moyen de sortir de cet esclavage. Et certains d'autres, certainement, ils sont maudits Dieu dans leur souffrance, mais pourtant Dieu n'avait pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu de leur père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Verset 6, la deuxième partie. Et quand on voit ici, c'est dit que Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Nous savons que l'homme pécheur ne peut pas regarder Dieu en face. Depuis la chute, c'était le cas. L'homme pécheur ne peut pas regarder le Dieu saint en face. Adam et Ève se cachaient par crainte. De la même manière, Moïse il cache son visage par crainte. C'est quelque chose qui est devenu naturel pour l'homme, de ne pas pouvoir regarder Dieu en face. Même les anges se cachent dans sa sainte présence. Des séraphins se tenaient au-dessus, je lis de Isaïe 6, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Il se cachait dans la présence de Dieu. Je pense que c'est utile de savoir quand, dans nos jours, nous entendons des histoires bizarres, que les gens ont vu Dieu. Et une fois, j'ai lu un livre sur le mouvement charismatique où les gens ils racontent n'importe quoi sur Dieu. Dieu il est saint. Et on oublie que Dieu il est saint. On raconte des bêtises, des histoires qu'ils ont vu Dieu. Et quelqu'un, il raconte dans ce livre, il était en train de promener sur la plage, dans le sable, et avec Jésus. Et Jésus, il a joué avec de l'eau, et jeté de l'eau sur lui, et joué ensemble. Mais on oublie que la nature de Dieu, la sainteté de Dieu, et un autre raconte que il rencontre Jésus chaque matin dans son salle de bain. Et quand il rase, il vient, il parle avec lui, il joue avec lui. Et c'est bien de savoir que l'homme, il a toujours eu crainte quand il a vu Dieu. Il se cachait son visage. Et l'homme pécheur, il ne peut pas voir Dieu. Dieu reste Dieu. Il est éternellement Dieu. Il est inchangeable. Même si nous avons le privilège d'appeler Dieu notre Père Céleste, il reste Dieu. Et nous restons ses enfants. Nous avons une sainte relation avec Dieu. On ne peut pas transformer cette relation en n'importe quoi. Regardez le verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Le verset 9, on saute au verset 9. « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » C'est le Dieu qui était dans la fournaise avec Shadrach, Meshach et Abednego, qui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » C'est le même Dieu et notre Dieu. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Le peuple, il était très très loin de Dieu. Ils ont certainement oublié leur Dieu. Dieu, il fallait que Dieu s'introduise lui-même comme le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. J'ai entendu les cris qui font pousser ces oppresseurs, car je connais ces douleurs. Satan voulait détruire le peuple de Dieu. C'est son plan original. Il voulait détruire sa postérité promise à Abraham. Ce peuple qui va devenir la nation d'Israël, d'où va naître Jésus-Christ, le Sauveur. Je pense que le pasteur Steve, il avait dit dans sa prédication que c'était la bataille entre Satan et Dieu. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien souvent, nous voyons que les choses qui nous est visible. Nous voyons pas les choses qui n'est pas visible à nos yeux. Ici, comme souvent le cas, Satan, en opprimant le peuple de Dieu, les pousse à crier à leur Dieu. Satan, il pense pas à ce que ça va devenir. Il a son plan, il a son projet pour opprimer le peuple de Dieu. Mais l'effet, c'est le peuple pousse le cri à Dieu. Au combien de fois nous sommes poussés à approcher Dieu, marcher plus près de lui dans nos moments de détresse et de difficultés. Satan, il peut nous tenter, il peut nous faire chuter. Et combien de fois nous sommes ramenés vers notre Dieu. Satan, il veut nous faire du mal. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il transforme pour notre bien. Même quand Satan veut nous détruire et nous faire mal, Dieu transforme les ruses de Satan pour le bien de ses enfants. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Nous n'avons pas un Dieu lointain. Nous pouvons éloigner de Dieu dans nos vies parfois, mais Dieu, il est toujours près de nous. Nous avons un Dieu qui est tout près de nous, qu'il voit tout, rien n'échappe de sa vue, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Regardons maintenant le verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qui habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoriens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Regardez comment cette phrase est complète. Premièrement, Dieu dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Son peuple, il était en Égypte. Mais Dieu voit leur souffrance. Et deuxièmement, et j'ai entendu les cris qui font pousser ses oppresseurs. Donc il voit leurs oppresseurs aussi. Il entend les cris de son peuple. Troisièmement, car je connais ses douleurs. Parfois on pense que on parvient notre souffrance, notre douleur à Dieu par nos prières. Mais Dieu connaît déjà. Et si Dieu dit que car je connais ses douleurs. Quatrièmement, je suis descendu pour le délivrer. Dieu lui-même, il descend pour délivrer son peuple. Délivrer de quoi? De la main des Égyptiens. Cinquièmement, c'est de la main des Égyptiens. Et sixièmement, et pour le faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dieu, il nous délivre des mains de nos oppresseurs du monde. Ce n'est pas pour le laisser dans le désert. Il a un projet pour nous. Il veut nous amener dans un bon et vaste pays. Et parfois, les chrétiens, une fois qu'ils sont sauvés, ils préfèrent rester dans le désert, être perdus dans le désert. Mais non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut suivre Dieu pour aller dans un beau et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. N'est-ce pas, la parole de Dieu est comparée au lait et au miel? Dans un vaste pays où la parole de Dieu régnera. Dans le psalmiste, dans le psaume 119, il dit que ta parole est comme le lait. C'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Désirer la parole de Dieu comme le lait pour de nourrissons. Et le psalmiste, il dit dans le psaume 119, il compare la parole de Dieu au miel. Observez ici la certitude d'affirmation de Dieu. Dieu, il affirme ces choses. Il n'y avait pas de peut-être. Dieu, il est sûr de ce qu'il va faire. Il est sûr de ce qu'il va faire. Il n'a pas dit, si vous faites ça, je ferai celui-là. Ce n'était pas une simple invitation, une simple offre qui était faite à Israël. C'était une déclaration inconditionnelle et emphatique de ce que le Seigneur ferait. Le Seigneur dit, je suis venu pour les délivrer et c'est ainsi avec le Seigneur, même maintenant. Le Seigneur, il est venu pour nous sauver. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et pensons, quand on lit ce verset, pensons à notre propre état de pécheur. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Ce que le Seigneur il a fait pour nous, quand il a vu ce que le péché il a fait aux hommes, le Seigneur lui-même il a descendu pour nous délivrer de nos péchés. Maintenant, regardons le verset 10. Maintenant, vois, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Mais comment on peut comprendre ce que Dieu dit à Moïse et ce que Moïse répond? Comment on peut comprendre? Et Dieu dit, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Il n'y avait pas un autre homme sur la face de la terre qui était mieux situé que Moïse. Donc, si Dieu il a choisi Moïse, il avait sa propre raison. Et quelqu'un dit que Dieu, il n'appelle pas les qualifiés, mais il appelle, il qualifie la personne pour accomplir son œuvre. Moïse, il avait ses qualifications en Égypte. Il avait vécu 40 ans, il avait appris les arts d'Égypte, il était éduqué dans la meilleure université, dans le palais de Pharaon. Mais pourtant, il devrait tout oublier pour apprendre ce que Dieu va lui apprendre. La vie de Moïse, c'était 120 ans, était divisé en trois parties. 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert, et 40 ans encore dans la main de Dieu. Et Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Mais quand on réfléchit, on peut penser que peut-être Moïse est personne. comme il dit, qui suis-je? Mais c'est un envoyé de Dieu. Dieu envoie Moïse. Ça ne suffit pas pour aller. Et souvent, on pense que nous sommes rien. Oui, nous sommes rien. Mais si nous sommes envoyés par Dieu, si nous sommes appelés pour Dieu pour accomplir son ministère, on devient les instruments puissants dans la main de Dieu. Quand j'étais à Pondichéry en Inde, j'ai rencontré un jeune homme de notre assemblée là-bas. Lui, il a fini ses études d'ingénieur, il est qualifié, et il a reçu l'appel de Dieu pour être son serviteur. Donc il est à plein temps, il a obéi simplement l'appel de Dieu, il est à plein temps, il sert le Seigneur. Mais bon, j'étais très touché par sa foi, par sa obéissance. Et quand Dieu appelle, qui peut résister? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Premièrement, c'est Dieu qui envoie. Ça nous suffit. Parce que, après, Moïse le demande. Hein, si le peuple demande, que dirais-je? Mais ici, c'est Dieu qui envoie. Et c'est un envoyé de Dieu. Et verset 12, Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et premièrement, Dieu dit que c'est moi qui t'envoie. Deuxièmement, quand Dieu envoie quelqu'un, il l'accompagne. Il l'abandonne pas. Il l'abandonne pas. Ça peut être Égypte, le pire endroit. Moïse, il peut imaginer pour aller. Vous savez qu'il a tué quelqu'un. Hein? Pharaon, il cherchait à tuer Moïse. C'est le dernier endroit sur la terre, Moïse il voudra aller. Mais dans le pire endroit même, si Dieu t'envoie, il serait avec toi. Il sera avec toi. Donc Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Et dans notre ministère, nous devrions être sûrs. Si Dieu nous a appelés à faire un certain service, et si c'est Dieu qui nous a mis cette œuvre dans nos mains, et nous devrions savoir que c'est Dieu, il sera avec nous. Il sera avec nous. Le verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. C'est le seul certificat Moïse l'a pu avoir. Même, il avait beaucoup de bagages. Quand il a sorti d'Égypte, il avait beaucoup de bagages. Mais maintenant, c'est un berger qui était en arrière du désert, en train de paître ses troupeaux. Le seul certificat, il le porte avec lui quand il part en Égypte. Il dit, j'irai donc vers les enfants de Dieu, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Tu dis que je suis celui qui suis. Dieu ne change pas. Le Dieu qui présenta à Abraham, Isaac, Jacob, c'est le même Dieu. Je suis celui qui suit, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu ne donne pas encore des choses, il dit, c'est moi qui t'envoie, je suis. Nous voyons beaucoup de je suis dans l'évangile de Jean. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Je suis le bon berger. Je suis la lumière. Je suis la porte. Je suis. Ça ne suffit pas. Mais bien souvent, nous sentons insuffisants, sentons l'insuffisance dans notre vie. Mais si Dieu nous accompagne, le Dieu qui s'appelle Je suis, qu'est-ce que nous manquons? Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération à génération. Donc, le nom de Dieu est suffisant. On chante cœur, hein, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, au nom de Dieu, nous sommes envoyés pour annoncer l'évangile. Et Dieu, il envoie ses disciples avant de monter au ciel, aller partout dans le monde et prêcher l'évangile. Et en son nom. En son nom. Et nous allons arrêter avec ce verset. Nous verrons la suite après. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui ne change pas depuis des milliers d'années. Seigneur, tu es le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et Dieu de nos pères. Seigneur, nous avons vu dans ta parole que tu n'as pas honte d'être appelé notre Dieu. Et nous avons ce privilège de te pouvoir appeler notre Père aujourd'hui. Quel privilège. Seigneur, nous avons fait des choses, nous avons commis les péchés, que nous avons honte de regarder ta face. Mais Seigneur, par ta grâce, tu nous as pardonné de nos multitudes de péchés et tu nous as fait tes enfants. Nous étions tous errants comme le fils prodigue. Nous avons fait ce que peut briser le cœur de notre Père. Mais Seigneur, tu nous aimes d'un amour éternel et tu nous as pris chez toi. Seigneur, nous te bénissons pour ce privilège d'être à toi, pour être envoyé par toi dans ce monde. Seigneur, pour aller annoncer cette bonne nouvelle aux pécheurs perdus. Seigneur, aide-nous à comprendre ce privilège, ce statut que nous avons en toi. Seigneur, nous n'avons aucune qualification. Seigneur, nous n'avons rien sauf que ta parole et de ton nom. Seigneur, fais-nous de tes serviteurs. En ton nom, nous prions et pour ta seule gloire. Amen.